En février 2023, la Terre a tremblé des milliers de fois en Turquie et en Syrie. Suite au séisme de 7,8 et 7,6 de magnitude sur l'échelle de Richter, enregistré dans la nuit du 5 vers le 6 février 2023, de nombreuses répliques ont secoué les habitants de nombreuses villes, de Gaziantep à Alep, comme les bébés dans leur berceau, selon les mots des survivants. La mort a frappé dans le noir et dans le froid. En effet, la tragédie aurait été sans doute moindre si les premiers séismes n'avaient pas eu lieu vers 4 heures du matin, heure locale, quand toute la population était dans des maisons mal préparées pour un tel risque. De plus, c'était la plus froide période de l'année, si froide que les écoles avaient été fermées la veille en Turquie. Les secours n'ont pu intervenir vite et les gens sont morts de froid dans les décombres dans les jours qui ont suivi. D'ailleurs, il est impossible de connaître le nombre réel de victimes, alors que les personnes impactées se dénombrent en dizaines de millions. La région était déjà affectée par la guerre en Syrie et les déplacements de population de la dernière décennie. Ce que l'on sait est que l'une des villes jadis les plus florissantes de la civilisation occidentale, Antioche, moderne Antakya, une des capitales du royaume séleucide et de l'Empire romain tardif, n'est plus qu'un tas de ruines. Après le choc de la destruction brutale et totale et le deuil des funérailles, il y a le vide. L'attente d'une nouvelle reconstruction, qu'on espère plus durable que la précédente. Les tremblements de terre ne sont pas rares dans l'est de la Méditerranée, à la croisée des plaques anatoliennes, eurasiatiques et arabiques. Les générations de chaque siècle ont payé leur tribut à Poséidon, ce dieu inventé par les Grecs pour expliquer la terre qui peut bouger autant que la mer. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre tremblement de terre nocturne. Il a eu lieu il y a 1500 ans, à Byzance, alors capitale de l'Empire romain d'Orient, et il a été décrit en détail par un auteur grec du nom de Agathias. Jules Plassard, étudiant en master d'histoire de l'École normale supérieure passionné par l'histoire byzantine, a étudié ce texte et a coordonné une équipe interdisciplinaire de spécialistes littéraires et scientifiques qui se sont penchés sur ce texte et ont réalisé un dossier publié sur la plateforme Odysseum dans la bibliothèque Humanité dans le texte. Humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Alors nous allons plonger directement dans la lecture de ce texte. Il s'agit du livre 5 des Histoires d'Agathias, du chapitre 3 qui décrit le tremblement de terre de 557, de 557 après Jésus-Christ bien sûr, à Byzance, Constantinopolis pour les Grecs, Istanbul aujourd'hui. Jules Plassard va lire le texte en grec et je traduirai simplement, je ne traduirai pas, je lirai la traduction française de mon côté.
Τότε δε άμφιμε σέντες νύκτος φύλακεν ύπνο, μεν οίας το εχόντο καί ρημιά, εν έπεσε δε απ εξαπίνες το δέινον, καί απάντα ουσούς εκ μπάστρον αυτον εδονέτο. Et kinesis biaioitata, catarcas eis balusa, et pimeizon eti euxaneto, cae epeuxaneto. Osper es epidosin tina, cae hyperbolen tu patus coruntus.
Alors que, vers le milieu de la nuit, les habitants étaient pris par le sommeil et le repos, soudain s'abattit la catastrophe. Et tout fut aussitôt ébranlé, en commençant par les fondations. Le mouvement qui s'élança très violemment dès ses débuts, croissait et s'accroissait encore davantage, comme si le phénomène s'intensifiait et se dépassait.
Uto de un apanton afupniseston cocutos equeto pantoten, cae ololuge, cae eprostoteion anaboastai automatos en tutois eio tuia fone. Epei cae echos tis barus cae agrios, osper tonia bronte, ectes ges anapempomene epecolutei toclono, cae ediplasciatze, tas ecplexais, ote perigeios aer omicle capnodei, ucoidaothen, anachuteise catemelaineto, cae enapas zopheros, cae oion geganomenos.
Quand donc tous furent ainsi tirés du sommeil, on entendit lamentations, gémissements de toutes parts, et le cri spontané que l'on pousse ordinairement vers la divinité dans de telles circonstances. Et ensuite, un son grave et brutal, comme un tonnerre souterrain envoyé de la terre, suivait le tumulte et redoublait les peurs. L'air environnant était noirci par un nuage de fumée répandu de je ne sais où, tout était obscur et comme recouvert d'un vernis brillant.
toi gartoi alogotini, to antropeion kai anexetasto, hypotudeimatos e homenoi, nome, hypexe santon oikematon, kai otica aite, agiai kai oistenum poi, ene pim platon, tu omilu. Osper ucicae entota enon, ei uto tuchoi, diaftar renai.
C'est donc pourquoi la population, prise d'un accès irréfléchi de folie à cause de la terreur, sortait des maisons. Les avenues et les rues se remplissaient aussi vite de cette foule, comme s'il n'était pas possible de périr si l'on s'y trouvait. Alors voilà, une première description de ce séisme de 557 à Istanbul, à l'époque Byzance donc, par Agathias. Une description qui est remarquable par la diversité des registres qu'elle emploie. Elle essaye à la fois d'être précise dans les conséquences sur le bâti, de décrire les émotions vécues par les personnes et en même temps apporte un témoignage peut-être qui nous peut nous sembler étrange quand par exemple il dit à la fin pris d'un accès irréfléchi de folie à cause de la terreur en désignant le mouvement des populations en dehors des maisons, alors que nous, ça nous semble plutôt réfléchi. Mais c'est en tout cas un témoignage remarquable que vous avez décidé de mettre au cœur de votre dossier, Jules Blassard. Donc je vais vous laisser commencer par nous dire pourquoi.
Justement, ce qui est assez intéressant dans ce passage, c'est cet aspect sensible, à la fois dans la convocation des sens, c'est ce qu'on essaie de montrer dans le dossier, notamment par exemple, il y a l'importance de la vue, il y a l'importance du bruit, il y a même des questions de couleur. Donc c'était ce qui était assez intéressant de mettre en avant. Et aussi une certaine attention aux réactions humaines face à cette catastrophe, même si bien sûr il y a une forme de message moral derrière qui est développée dans le reste du texte. Mais dans cet extrait, en tout cas, on a une sorte de description de la réaction des personnes qu'on a trouvée assez intéressante.
Alors c'est donc Agathias qui nous fait cette description. Agathias n'est pas un auteur très connu de l'Antiquité. Est-ce que vous pourriez nous faire une biographie à grands traits ?
Alors justement, cet aspect sensible du récit, il est assez propre à Agathias, c'est ce qui le rend intéressant selon moi. Parce que Agathias, donc, c'est un auteur, ses dates de vie approximatives, on peut les situer entre 536 et autour de l'année 580. On l'appelle souvent Agathias le scolastique. Mais Agathias est un nom assez peu courant pour qu'on le désigne ainsi. Il est connu, pour nous, il est avant tout connu comme historien. Et c'est même l'historien principal des années 550, donc d'une période importante du règne de Justinien, qui est un des grands empereurs de la période. Et il fait suite à Procope de Césarée, qui lui est plus connu. Procope de Césarée est un auteur qui est souvent encore travaillé par les antiquisants, alors que Agathias est souvent délaissé parce que plus littéraire, moins fiable en tant qu'historien, parce que plus sensible. Et nous, c'est au contraire ce qui nous a intéressés. Parce qu'il a une veine littéraire, ça se retrouve aussi dans le reste de sa bibliographie, parce qu'il a aussi rédigé des poèmes et des épigrammes, il était connu pour ça d'ailleurs à son époque. Nous, ce qu'on a gardé, c'est ses histoires qui gardent ce volet littéraire, même s'il a des intérêts évidemment pour l'histoire.
Oui, vous disiez d'ailleurs, quand on préparait ce podcast, qu'il était assez connu pour utiliser des sources diverses, pour ne pas forcément utiliser la méthode du témoin oculaire, qui est très prêchée par les premiers historiens de l'Antiquité. Il avait son style à lui.
Exactement. En fait, c'est ce qui est intéressant. Alors, c'est pas du tout dans ce passage-là, mais Agathias est aussi connu parce qu'il raconte à un moment qu'il a eu accès aux annales royales sassanides, donc perses, alors qu'il n'est pas un historien qui s'appuie sur des sources précises. Ça n'est pas un Hérodote, c'est pas Thucydide, c'est pas ces grands auteurs qu'on a reconnus comme les pères de l'histoire. Lui dit quand même à un moment qu'il a demandé à un traducteur de se rendre en Perse et de lui rapporter en traduction une partie des annales. Donc ça montre un peu la singularité d'Agathias, qui est à la fois historien, intéressé par les sources, par qu'est-ce qu'il peut trouver de témoignages, et en même temps qui est présent dans son récit, et qui essaie d'en faire une œuvre vraiment littéraire aussi.
Alors je crois que les tremblements de terre interviennent à plusieurs reprises dans les histoires d'Agathias. Est-ce qu'on sait pourquoi il s'intéressait à ce phénomène ? Est-ce que lui-même aurait été témoin de ces tremblements de terre, de celui qu'il est en train d'écrire ?
Cette question n'a pas vraiment été posée dans la littérature scientifique, peut-être parce qu'elle est en fait assez auxiliaire. Agathias ne dit pas qu'il était présent, mais il est possible qu'il l'ait été en 557, puisqu'il a terminé ses études en tant qu'études de rhétorique et puis d'avocat en 554 à Constantinople. Donc c'est tout à fait possible qu'il se soit trouvé à Constantinople et que ce soit une des raisons pour lesquelles il l'a cité. En tout cas, on est certain qu'il était présent à Alexandrie en 551 pour le séisme qui s'y est produit. Et c'est justement cette importance dans sa vie personnelle d'avoir été témoin d'un séisme assez jeune pendant ses études qui l'a marqué, qui lui a donné sûrement un intérêt pour ces questions-là qui ne sont pas vraiment évoquées. Les séismes sont évoqués dans d'autres œuvres d'historiens, notamment chez Thucydide, mais ils sont juste mentionnés et ils servent notamment à dater parfois. C'est-à-dire c'est comme les éclipses, en fait, ça sert de repère naturel pour dater un événement, parce que c'est un événement tellement mémorable, évidemment, que les gens s'en souviennent.
Alors, dans ce genre d'événement, il y a aussi les pestes, les épidémies. On connaît la fameuse peste de Justinien, les grands incendies. La ville de Byzance en a connu de nombreux, comme celle de Rome. Aidez-nous à nous représenter ce moment dans lequel on est. Byzance, on va voir plus tard avec Catherine Saliou une description plus précise de la ville, mais je parle de l'Empire romain dans son ensemble et du règne de Justinien Ier. Aidez-nous à nous représenter un petit peu le contexte global.
C'est amusant de parler de la peste parce que c'est justement ce que va évoquer Agathias tout de suite après ce séisme. C'est aussi l'une des choses qu'il raconte, évidemment, puisque la peste justinienne, c'est l'un des grands événements qu'on garde du VIe siècle, vu qu'il va quand même profondément transformer la démographie méditerranéenne et ça va avoir des incidences très importantes sur la suite des siècles. Mais ce qui est en tout cas important pour cette période-là, pour le VIe siècle et le milieu du VIe siècle, on se trouve donc dans ce qu'on appelle en France l'Empire byzantin, ce qui est souvent appelé l'Empire romain. Et justement, ce qui est intéressant dans cette période, c'est que contrairement à l'Occident, où 476, cette date qu'on apprend quand on est collégien, qui marque la chute de l'Empire romain d'Occident, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, on conçoit en tout cas en Occident une vraie rupture de l'histoire à la fin du 5e siècle. On passe dans le Moyen-Âge avec les royautés, notamment mérovingiennes, et tout ce qui s'ensuit de toute l'histoire médiévale, alors qu'en Orient, la continuité est beaucoup plus forte avec la présence de cet empire romain ou byzantin, eux se considèrent comme romains, et cette continuité aussi bien étatique, donc politique, mais aussi culturelle, puisque la culture grecque classique va continuer à infuser l'empire byzantin jusqu'à sa disparition. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.
Istanbul et pas Constantinople, c'est le titre de cette chanson de 1953 du quartet vocal canadien The Four Lads, qui fait référence au changement officiel du nom de la ville, intervenant le 28 mars 1930 dans la lignée des politiques de turquisation lancée par Atatürk. Nous sommes toujours avec Jules Plassard et l'équipe pluridisciplinaire qu'il a réunie autour de lui pour tâcher de comprendre à la fois le déroulement, les causes et les conséquences d'un séisme sur une ville telle que Constantinople au mi-temps du VIe siècle après Jésus-Christ. Constantinople, no, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the work?
Je vous propose justement d'en parler avec Catherine Saliou, spécialiste d'histoire et d'archéologie constantinopolitaine, professeure d'histoire à l'Université de Paris 8, directrice d'études à l'EPHE et membre du laboratoire d'Auroch à l'ENS, en charge précisément d'un axe d'études sur la ville antique. Dans son séminaire hebdomadaire à l'EPHE sur l'histoire urbaine de l'Orient romain tardif, Catherine Saliou évoque régulièrement les questions de topographie, d'histoire naturelle et architecturale des grandes villes de l'Antiquité tardive.
Bonjour Catherine Saliou. Alors, comment devons-nous imaginer Byzance au VIe siècle?
Alors, Byzance, c'est Constantinople. Hein. Le nom de Byzance est celui d'une antique cité grecque fondée sans doute au VIe siècle avant Jésus-Christ. et qui est devenue, à l'époque hellénistique, une cité extrêmement importante, puisque c'est la clé du Bosphore, en fait, hein, donc de ce passage qui relie la Méditerranée à la mer Noire. C'est sur le site de l'antique Byzance, c'est à Byzance, que l'empereur Constantin a fondé Constantinople au début du 4e siècle après Jésus-Christ. Et Constantinople est devenue la capitale de l'Empire romain d'Orient, qui donc va devenir progressivement l'Empire byzantin. Alors, cette ville, donc, c'est une capitale qui s'est considérablement développée à partir de ce qu'elle était à l'origine, donc une cité grecque d'époque romaine relativement importante. Donc, cette ville est devenue une capitale impériale qui s'est considérablement développée. On peut distinguer finalement deux zones au VIe siècle. Il y aurait la ville de Constantin, la fondation de Constantin, donc avec une vieille ville qui serait donc l'ancienne Byzance, et puis les quartiers fondés par Constantin autour de l'hippodrome, du palais. Il y a eu une extension des remparts vers l'ouest qui a été effectuée au 5e siècle après Jésus-Christ, donc environ un peu plus d'un siècle avant le tremblement de terre. Et ce secteur ouest est moins dense. Mais la ville de Constantin est une ville extrêmement dense. Par rapport à l'Istanbul actuel, le relief est beaucoup plus fort, en fait. Enfin, les reliefs sont plus marqués, sont très marqués. Et donc, la ville est à la fois dense et caractérisée par ce relief important. Elle est traversée par des ruches, et certaines de ces rues sont longées par des portiques qui constituent vraiment des éléments extrêmement importants de la vie urbaine. Hein. Ce sont des espaces de circulation, mais aussi des espaces commerciaux, des espaces processionnels, etc. Il y a eu une sédition importante en 532 après Jésus-Christ, qu'on appelle la sédition Nika, enfin une révolte contre Justinien. Et dans le contexte de cette révolte et de sa répression, une partie de la ville, du centre-ville près du palais, a été détruite par un incendie. Et Justinien donc l'a fait reconstruire, et c'est dans ce cadre qu'il a fait reconstruire la grande église, l'église Sainte-Sophie, hein, qui est encore relativement récente, enfin relativement neuve.
D'accord.
C'est important parce que l'un des deux architectes de cette église, Anthémios de Trale, il y a eu deux architectes, Anthémios de Trale et Isidore de Milet. Anthémios de Trale est connu notamment par une anecdote rapportée par Agathias, puisque les grands architectes du siècle de Justinien, en fait, sont des ingénieurs. On les appelle les mécaniciens, mais donc ce sont en même temps des scientifiques, et des ingénieurs et des architectes. Et ce fameux Anthémios de Trale devait vivre dans un immeuble collectif, avec donc différents appartements. Il était en conflit de voisinage avec son voisin du dessus, qui se trouvait être avocat, donc il n'avait aucune chance de l'emporter dans le cadre d'un procès. Et il a préféré le ridiculiser en lui faisant croire qu'il y avait un tremblement de terre, en fabriquant faux tremblement de terre, donc sous la salle de réception de ce malheureux voisin, qui, le lendemain, s'est précipité au palais et demandé à tout le monde, alors vous, le tremblement de terre, vous avez survécu, comment ça s'est passé, etc. Mais il a été complètement ridiculisé.
On a l'impression que vous nous parlez de l'Istanbul moderne, là, aujourd'hui. Hein. Des immeubles à étages, un avocat qui habite au-dessus d'un ingénieur, c'est très moderne. Et c'est intéressant, d'ailleurs, de voir que, vous le dites aussi, Jules Plassard, à plusieurs reprises, les temps changent, mais les émotions restent. Et face à un séisme, peut-être que le bâti est plus solide aujourd'hui, et encore, mais en revanche, les émotions sont les mêmes. Une petite chose sur cette époque-là du bâti byzantin. Quand on va à Istanbul aujourd'hui, parce que c'est une destination qui est quand même très courue, beaucoup de touristes y vont, est-ce qu'on peut le voir, ce Byzance?
Oui, alors, notamment, pas Sainte-Sophie, hein, mais on peut voir un certain nombre d'églises, essentiellement Sainte-Sophie, et puis les vestiges de Saint-Paulieux également. En revanche, malheureusement, en ce qui concerne l'habitat, on ne connaît pratiquement pas, par l'archéologie, l'habitat de l'Antiquité tardive. En revanche, on le connaît assez bien par les textes, par le texte dont je viens de vous parler, enfin donc par ce genre d'anecdotes, et puis aussi par les textes juridiques, notamment une loi d'un empereur du 5e siècle qui a été émise pour accompagner justement l'expansion urbaine et la construction de Constantinople. Et donc cet habitat, effectivement, est assez moderne. Il y avait d'une part des palais, de véritables palais à proximité du palais impérial. On a fouillé notamment une partie de ce qu'on appelle le palais de Lossus, de vastes demeures tout à fait somptueuses. Mais sinon, il faut imaginer un tissu urbain constitué d'immeubles collectifs, ce qu'on appelle des immeubles de rapport. Et on parle parfois aussi de domaines urbains parce qu'on sait que donc ces immeubles étaient organisés autour d'une cour, souvent, et dans la cour, on pouvait avoir un petit édifice thermal, on pouvait avoir éventuellement une chapelle, on pouvait aussi avoir une boulangerie, etc. Donc effectivement, c'est un tissu urbain qui est assez moderne.
D'accord. Alors, on comprend bien que ce ne soit pas évident de retrouver des traces du bâti de cette époque, avec tous les incendies et tous les séismes donc, que la ville d'Istanbul a connus, et on va y revenir. Vous dites qu'il y avait des étages malgré tout. Alors, est-ce que ces immeubles, déjà combien d'étages il faut s'imaginer? Est-ce que comme c'est 6 ou 7 comme les Haussmanniens? Est-ce que c'est un autre chiffre? Et est-ce que ces immeubles étaient construits avec des techniques antisismiques?
Alors, ces immeubles comportaient des étages. Il faut tenir compte aussi du fait du relief. Donc, c'était des immeubles à plusieurs niveaux. Combien de niveaux, c'est assez difficile à dire. Alors, on a un texte, mais qui concerne plutôt donc, les provinces palestiniennes, qui évoque 4 niveaux. Et en plus, on est en province. Donc, je pense qu'on peut imaginer effectivement au moins 4 ou 5 niveaux. Quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais qui est intéressant si on veut s'imaginer effectivement la vie à Constantinople, c'est l'importance de la vue sur la mer. Il y a toute une législation sur la vue sur la mer.
C'est déjà apprécié.
Oui, c'est assez. Donc, c'est apprécié, protégé par le droit. Alors, en revanche, le droit, il n'y a pas de ce qu'on appelle les normes antisismiques au sens moderne du terme. Au contraire, dans le droit, un tremblement de terre, c'est vraiment quelque chose qui se trouve en dehors, qui est imprévisible. Enfin, c'est un cas de force majeure, si vous voulez. Donc, on ne peut pas se retourner contre l'architecte ou l'entrepreneur qui a construit l'immeuble, s'il y a eu un tremblement de terre, l'immeuble s'est effondré. En revanche, il y a une volonté d'essayer de construire de façon à ce que les constructions puissent résister au séisme. Mais comme on ne connaît pas bien les causes réelles des séismes, dans certains cas, on essaye de construire solidement. Alors, on sait maintenant par des textes très différents, des textes bien antérieurs, un texte de Pline l'Ancien, donc qui écrit au 1er siècle, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors lui, il considère que, ça nous paraît un peu paradoxal, mais que construire en terrain marécageux, c'est le meilleur des techniques antisismiques.
D'accord. Pendant que vous commentiez le conseil de Pline sur la construction antisismique, il serait favorisé par le fait de construire sur un marécage. J'ai senti chez les sismologues de notre équipe, nous avons donc un spécialiste d'archéosismologie et un sismologue autour de cette table, des petits rires.
Justement, sur l'anecdote qui était rapportée sur Pline, effectivement. Alors aujourd'hui, effectivement, ça nous paraît complètement paradoxal parce qu'en zone marécageuse, on considère qu'on est dans une zone où on a une forte zone de sédimentation, donc qui va avoir plutôt tendance, au contraire, à amplifier les ondes ou, dans ce cas précis-là, à produire des phénomènes de liquéfaction des sols et qui va du coup enclencher des basculements de structures ou ce genre de choses.
Donc plus de ruines et en plus elles seront englouties.
Enfin, du coup, j'ajoute quelque chose concernant Constantinople. En fait, la ville s'est vraiment considérablement développée à partir du 4e siècle et une partie de l'espace urbain est en fait gagné sur la mer. Ça, c'est un auteur de la fin du 5e siècle, début du 6e siècle, Zosime, qui l'explique que vraiment, le trait de côte a changé de façon tout à fait artificielle parce qu'une partie donc, de l'espace urbain était gagnée sur la mer avec un système de pilotis, etc. Donc ça, je ne sais pas si ça a des conséquences particulières en cas de séisme.
C'est pas si fréquent d'avoir autour d'une table un historien de l'Antiquité byzantine, une spécialiste d'histoire urbaine, un sismologue et un archéosismologue. Donc, posons des questions.
C'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'au cours, donc, il y a plusieurs comme ça, manifestations dans les textes anciens, on voit qu'il y a un processus d'adaptation, de résilience. Alors, après, si on essaie de rapporter ça à ce qu'on fait aujourd'hui en génie parasismique, alors souvent, les propriétés parasismiques ne sont pas vérifiées. Ça, on le voit soit à travers des maquettes expérimentales, soit à travers des modélisations numériques. On n'arrive pas forcément à prouver que telle technique est vraiment parasismique. Même si, pour le coup, dans les textes, il y a cette volonté de réagir face à ce qui vient de se produire, d'essayer de changer sa manière de construire les choses. C'est intéressant.
D'accord. C'est la fin de cette première partie du podcast consacré au tremblement de terre de 557, tel qu'il est décrit par l'historien byzantin Agathias, et tel que les sciences naturelles, alliées aux sciences historiques d'aujourd'hui, peuvent aider à le comprendre. Merci à Catherine Saliou, à Pierre Briolle, à Arnaud Montabert et à Jules Plassard pour leur participation. Tout au long de cet épisode, vous avez pu entendre, accompagnant la lecture du texte d'Agathias, des extraits du disque Istanbul de Jordi Savall, avec son ensemble catalan Esperion 21, et des musiciens turcs interprétant l'œuvre de Dimitri Kantemir, le livre de la science et de la musique. Intermède musical était, on l'a dit, constitué de la chanson Istanbul Not Constantinople de l'ensemble vocal canadien The Four Lads. Ce podcast vous a été présenté par Émile Gaillozo, responsabilité scientifique Ankadan, et on se retrouve dans deux semaines pour sa deuxième partie. En attendant, place toujours à la musique avec Les Dédales de Carole Beffa.